Bon, allez, on va commencer. Alors, merci à tous d'être présents. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de sensibiliser efficacement vos collaborateurs, vos équipes, vos clients au climat, que c'est un sujet qui vous concerne, que vous avez envie de changer le monde. Et bien, ça tombe bien, nous aussi. Moi, personnellement, je pense que je n'aurais pas quitté Total, puisque moi, j'ai passé 15 ans chez Total avant pour monter WeNow il y a 10 ans, avec l'objectif de faire bouger les choses. Le truc, c'est que pour faire bouger les choses, on a envie que ce soit efficace, que c'est un bilan positif. Et pour ça, aujourd'hui, on n'a pas forcément de KPI, d'objectifs très clairs. Et donc, pour travailler ou en tout cas discuter de ce sujet, on a décidé donc de le présenter à trois. Donc moi, entrepreneur qui montait une startup WeNow qui aide les entreprises à passer à l'action pour le climat. J'ai fait venir une personne qui est du monde de la formation, donc qui a réfléchi justement à comment on fait bouger les choses, comment on construit des objectifs spécifiques qui permettent d'avoir ensuite un bilan positif d'une action, un bilan de formation par exemple. Et Shirley, qui est à la tête de Kairos Agency. Shirley, elle est spécialiste de la digitalisation. La digitalisation, c'était aussi le précédent grand move des entreprises. C'est comment on fait bouger les entreprises sur la digitalisation. Et ils se sont posés les mêmes questions. Donc finalement, en RSE, on se pose des questions aujourd'hui sur comment sensibiliser de manière efficace. Qu'est-ce qui ont déjà été posées par d'autres secteurs sur d'autres activités, la formation, la digitalisation. Et donc, c'est hyper intéressant de confronter les points de vue pour justement essayer d'apprendre de ce qui s'est fait dans d'autres domaines et permettre de répondre peut-être efficacement à cette question. Pour que ce soit un peu interactif, on vous propose d'utiliser Kahoot pour répondre à quelques questions. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec Kahoot, ça va être assez simple. Vous allez vous connecter sur... Donc, vous prenez votre téléphone, vous scannez le code qui est en haut, le petit flash code, et vous rentrez le code PIN 735-462.
Il doit être déjà rentré, je pense.
Normalement, il est peut-être déjà rentré, mais voilà. Et ça va vous permettre de répondre aux questions.
Parce qu'en fait, du coup, on part du principe que les personnes... Enfin, je ne sais pas si vous entendez quelque chose, mais oui, je pense.
Tu peux te rapprocher peut-être.
Ouais. On part du principe que ici, vous êtes dans deux positions. Soit la position où vous avez déjà mis en place un certain nombre d'actions de sensibilisation dans les entreprises à destination de vos collaborateurs, ou bien de vos clients, ou bien de vos partenaires. Ou bien vous êtes là parce que vous avez prévu d'en mettre en place demain. Et donc, on voulait commencer cet atelier en lançant une première question qui va être juste... pour s'ouvrir sur les actions de sensibilisation qui sont en cours dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, soit celles que vous avez déjà faites, par exemple la dernière, soit la prochaine. Et donc, on peut lancer le... De toute façon, vous allez pouvoir continuer, ça va rester affiché en haut. On va pouvoir démarrer. Vous avez tous des avatars trop classe, quand même. Tu arrives à démarrer en haut à droite.
Je récupère pas la souris. Hop.
Faut que tu ailles vers la gauche, c'est ça.
Ah, c'est bon, je la vois.
Pardon.
Non, je la vois plus maintenant. Tu me l'as déplacé. Ah, si, ça y est. Hop. Ouais. Pardon. Hop. Alors.
Donc là, c'est un nuage de mots, c'est-à-dire juste c'est de mettre une action en quelques mots, par exemple, je ne sais pas, probablement fresque du climat, ça doit parler à certains, enfin ce type d'actions qui ont pu être mises en place, ou bien des conférences, ou bien. Voilà, des choses un petit peu, pour voir un petit peu ce qui se joue aujourd'hui chez vous. Oui, alors je ne sais plus comment ça marche. Si jamais vous y arrivez, vous en mettez plusieurs. Mais je ne suis pas certaine parce que je ne suis pas sûre qu'on pouvait paramètre. Non, ça ne marche pas. Oh. Bonjour. Il reste une petite dizaine de secondes et puis on va pouvoir voir l'ensemble des... un petit panorama de ce qui se fait à droite et à gauche aujourd'hui. Alors bon, de manière non surprenante quand même, l'action qui est faite dans le plus grand nombre d'entreprises aujourd'hui, on a beaucoup de fresques du climat qui sont déployées un peu partout. on voit, je vous laisse prendre le temps de regarder un peu les différentes actions. Ça permet de se donner et de voir qu'on fait des choses concourantes. Du coup, nous, dans cet atelier, l'idée, c'est de se dire, souvent, quand on se dit qu'il est important de faire une action de sensibilisation parce qu'on met en place un plan de changement, parce qu'on met en place... Enfin, on se dit, je veux une action de sensibilisation. Et puis, très souvent, mais comme toutes les actions en digitalisation, on va voir que c'est aussi un petit peu pareil, on passe assez vite du moment où on se dit, je veux une action de sensibilisation à la solution. On regarde un petit peu à côté, on vient à Pro Durable, on visite, on se dit qu'est-ce que je vais mettre en place et on passe à la solution. Et dans le temps de cet atelier, aujourd'hui, pour avoir une action efficace, il faut qu'elle soit adaptée à l'objectif. Et donc on veut prendre le temps de remonter un peu sur quels sont les différents objectifs qu'on peut avoir derrière de la sensibilisation pour arriver à choisir la bonne pour la bonne chose. Et du coup, ça, c'est effectivement quelque chose, ce petit temps de questionnement sur le pourquoi avant de passer au comment, c'est quelque chose qu'en formation, on a eu aussi souvent, parfois on nous dit, je veux une formation d'une heure sur tel sujet, mais en fait, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est la formation d'une heure le meilleur résultat, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup dans le monde de la formation, où nous, en tant qu'interlocuteurs des entreprises, notre rôle, c'est d'amener à réfléchir sur ça. Et je sais que dans le passé, en digitalisation, ça a été aussi un enjeu. Enfin, c'est toujours un enjeu.
Oui, c'est vrai. Dans la digitalisation, on a eu récemment l'enjeu de la sobriété numérique. Donc, c'est aussi une nouvelle dimension qui s'ajoute à la digitalisation. Mais la première des questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'utilise comme outil pour ma digitalisation ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un site web ? Est-ce que je vais ajouter un intranet ? Si oui, lequel ? Les réseaux sociaux d'entreprise ? On peut utiliser plein d'outils comme en formation. Mais les outils ou les formations ne sont pas des baguettes magiques si on ne les relie pas à des objectifs concrets. Par exemple, en digitalisation, on a eu le cas, je suis à Bordeaux, donc j'ai un cas viticole à vous proposer, on a eu le cas d'un viticulteur qui vient nous voir pour avoir son site web et qui veut vendre ses bouteilles en ligne. Évidemment, je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée de vendre ses bouteilles sur un site web qui soit propre à lui, tout simplement parce que ça allait lui coûter plus cher de faire venir du trafic pour acheter ses bouteilles sur son site que le site en lui-même et que les moyens qu'il pouvait déployer en marketing n'étaient pas assez élevés. Et donc, voilà, il faut adapter à l'objectif, il faut adapter aux moyens. Et c'est ce qu'on va voir avec vous aussi pour vous donner des pistes d'action utiles.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on comprend bien qu'il faut d'abord réfléchir à l'objectif. Surtout qu'en entreprise, on ne dépense pas des euros pour rien. Donc à chaque fois, il faut aller chercher et justifier évidemment chacun des KPI que vous allez pouvoir mettre en place. Quels sont les critères ? Comment on crée un bon objectif ?
Alors du coup, peut-être la question derrière, c'est à quoi, en fait, comment est-ce qu'on défend cette action de sensibilisation qu'on va faire, c'est quelque part quels objectifs on met derrière. Et du coup, peut-être ce que ça pose comme question derrière, c'est qu'est-ce que c'est qu'une sensibilisation bien réussie ? Est-ce qu'on passe à la question sur les sensibilisations ?
Ouais.
Donc du coup, peut-être la question que moi, sur laquelle je voulais vous poser, c'est vous avez mis en place toutes ces actions. Mais qu'est-ce qui va nous montrer qu'elle est réussie et qu'elle atteint l'objectif que vous aviez derrière ?
Donc là, vous pouvez mettre des phrases carrément.
Donc là, c'est un peu plus long. Et c'est la chose qui, on pense, est le cœur du sujet de l'atelier. C'est quel est l'objectif derrière et comment on montre qu'on a réussi, comment on sait qu'on a réussi.
Comment vous savez que
on a pas
le
perdu
fait d'avoir
argent.
Pris la fresque, c'était une action réussie et c'était l'action de sensibilisation réussie ?
On sait que ce n'est pas une question facile.
Et on ne vous laissera pas sans réponse après. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez vous connecter sur Kahoot. Sur,
Il reste 10 secondes.
Il reste 10 secondes. Non, 11 secondes. Le code PIN du jeu, c'est 735-462. Ok.
On peut les, du coup, on va les afficher, voir.
T'arrives à lire ? Ouais.
Ouais. Donc je regarde ici, parce qu'on le voit ici. Donc du coup, ce qu'on va voir, c'est qu'on a un certain... Donc on va peut-être prendre le temps de lire un petit peu ceux des autres. Je vais peut-être en faire une lecture. Donc passage à l'action, engagement, taux de participation, satisfaction des collaborateurs, changement de comportement. Passage à l'action, assez long, proposition d'action, amélioration des pratiques. L'envie, c'est intéressant ce mot donné à d'autres collaborateurs. Le fait de challenger la direction, donc des salariés qui sont proactifs. Pousser à la prise de conscience, puis à l'engagement individuel. Donc, on a encore l'action ici. Dans le « on sait que les collaborateurs se sont ensuite emparés du sujet, ils s'informent par eux-mêmes », donc on a des collaborateurs proactifs. Les collaborateurs en parlent, échangent, entre veulent changer. On a encore cette idée de collaboratif. Passer à l'action, donc plusieurs fois. Avoir compris la problématique et être conscient de la nécessité. Donc, être conscient de la nécessité, on a une idée de motivation derrière. C'est une très bonne question, merci. On pense aussi. Le taux de participation, ça c'est une métrique qu'on a très fréquemment. La prise d'action, donc on retrouve ce mot-là. Les collaborateurs connaissent tous le sujet. Alors dans cette question de connaissent tous le sujet, il faudrait définir un petit peu ce qu'on appelle connaître le sujet. Est-ce que c'est être conscient du sujet ou est-ce que c'est être capable de répondre à certaines questions, etc. Se sentir concerné, avoir des actions concrètes et mesurables. Alors, c'est assez ce qu'on observe assez régulièrement. Et en fait, l'ensemble de ces réponses, on les classe un peu en trois niveaux. On a un certain nombre, vous avez vu, dans les actions, dans les objectifs que vous avez donnés ou dans les critères de réussite, quelque chose qui est de l'ordre du changement d'attitude. Le changement d'attitude, c'était être conscient du problème. Ça va être sur des choses un peu plus concrètes, par exemple, accepter d'avoir plus de véhicules électriques dans une flotte et penser que c'est peut-être une bonne idée pour moi d'avoir un changement de véhicule.
Concrètement, nous, on accompagne un certain nombre d'entreprises. Effectivement, le premier problème auquel ils sont confrontés dans la transition, c'est de dire « mes managers, ils ne veulent pas du véhicule électrique parce qu'ils ont peur. » Ou mes collaborateurs ont peur de tomber en rade. Donc, arriver juste déjà à ce changement de mindset qui fait « Ok, j'accepte ce véhicule électrique » ou « Ok, j'accepte le forfait de mobilité durable », c'est-à-dire « j'ai même plus de véhicule ». Donc, juste le fait d'accepter et de ne pas faire barrage, en soi, c'est déjà un premier jet extrêmement intéressant.
D'un point de vue formation, c'est souvent là qu'on va classer. Alors, si je prends les mots qu'on a dans la formation, la sensibilisation, ce sera le changement d'attitude. Mais je sais que dans une acceptation plus générale, on met dans sensibilisation pas mal de choses. Et donc du coup, ces changements d'attitude, c'est déjà quelque chose d'hyper important et hyper nécessaire. Un niveau, alors on les met un peu plus en engagement parce qu'ils sont plus transformateurs, on va avoir l'acquisition de nouveaux comportements. Il va se passer des choses différentes dans l'entreprise ou chez les collaborateurs qui ne se passaient pas avant. Et vous en aviez mis plusieurs, vous êtes plusieurs à avoir mis « passage à l'action ». Et donc on rentre dans cette catégorie-là et on sait qu'il ne suffit pas d'être informé pour passer à l'action et que c'est quand même quelque chose de compliqué à atteindre, mais c'est quelque chose qu'on doit être capable de mesurer, du coup, dans du passage à l'action.
Pour donner un exemple, par exemple, sur la sobriété énergétique, le changement d'attitude, c'est « j'accepte de venir, il fait 19 degrés, je ne fais pas la révolution ». Le changement de comportement, c'est « je m'habille différemment pour venir au bureau » ou « j'apporte ma bouillotte » ou « enfin voilà ». Donc j'ai un changement de comportement personnel, donc je suis proactif personnellement.
Ou bien chez moi, quand je suis en télétravail, j'accepte ça. Et on a vu que dans ce que vous aviez mis comme objectif, il y a un troisième niveau. C'est dans le nouveau comportement, c'est des comportements qui étaient quelque part prescrits. On a pensé... Vous avez pensé, quand vous avez mis en place cette action, que ce serait bien que tel comportement soit plus largement réalisé par des personnes. Dans le force de proposition, c'est plus un comportement particulier, mais c'est que les personnes viennent vers vous, sont devenues proactives et ont un niveau d'engagement qui va amener l'entreprise ou qui va amener la société à prendre une nouvelle direction.
une nouvelle offre, par exemple Green pour vos clients. Et ça marche pour vos collaborateurs, pour les équipes, mais ça marche aussi pour les clients. On peut leur faire passer le changement d'attitude. Ok, je comprends que vous me proposiez une offre peut-être un peu plus chère. Je l'accepte parce qu'il y a un vrai sujet derrière. J'ai un nouveau comportement. Je change mon comportement même dans mon achat vis-à-vis de vous. Et peut-être je deviens partenaire, je vous demande des choses différentes. Donc ça, c'est au niveau du client, mais on peut l'avoir chez les conseils d'administration, on peut l'avoir chez nos fournisseurs. Enfin voilà, donc chez toutes nos parties prenantes, on a à peu près la même chose. Je crois que pour toi, Shirley, tu retrouves à peu près le même étage dans la digitalisation.
Oui, alors on a été confronté à ça pendant le Covid aussi. Le changement d'attitude, ben, ça a été d'accepter par exemple le télétravail et de se connecter à des outils qu'on n'utilisait pas forcément. Les nouveaux comportements, ça a été par exemple l'adoption d'un gestionnaire de documents centralisé, etc. Et aujourd'hui, très récemment, dans les forces de proposition, on va retrouver l'automatisation. Je pense que c'est la dernière brique qu'on a actuellement avec des salariés qui arrivent en demandant à brancher ChatGPT, à brancher Midjourney pour automatiser une partie de leurs tâches qui sont vraiment pénibles, ou en tout cas répétitives. Et d'un autre côté aussi, au sein de mon agence, on a mis en place de l'éco-conception. Ça veut dire que les sites dépensent moins d'électricité parce qu'on réduit le poids, on réduit les échanges de données. Mais c'était pas mon idée. C'était mes développeurs qui sont venus me voir en me disant on a pensé à quelque chose qui nous permet d'avoir de l'impact et de faire notre part dans cette transformation qui est globale pour changer nos comportements pour le climat. Et donc voilà, on arrive à des degrés aussi dans la digitalisation qui vont être, comme vous le décrivez, en formation, progressifs et qui viennent quand même en général d'un premier choc. Alors il y a eu beaucoup de digitalisation accélérée avec le Covid, mais encore avant, ça vient toujours d'un moment clé avec l'équipe et de monter à bord.
Mais Aude, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir tel ou tel objectif?
Alors je vais d'abord dire qu'il y en a deux objectifs qu'on n'a pas sur cette liste. Il y en a deux qu'on n'a pas mis. On n'a pas mis des connaissances, savoir des choses. Parce qu'en fait, savoir des choses, on n'a pas mis deux objectifs dont vous avez pu parler, qui sont en fait des moyens au service de cela, parce que c'est ça qu'on vise ultimement. Le premier qu'on n'a pas mis, c'est savoir, être capable d'avoir des connaissances. D'une part, parce qu'on, enfin, ça peut être ce qu'on appelle un enabler, un objectif qui va permettre, mais ce n'est pas vers là, ce n'est pas ça qui va nous dire que c'est réussi ou pas. Et le deuxième que vous avez mis, c'est soit le taux de satisfaction, soit le taux d'engagement, qui sont encore une fois des objectifs au service d'eux. Mais ce n'est pas suffisant de s'arrêter à « ça a eu 4 étoiles et demie » ou bien « il y a eu 20% au lieu des 4% habituels ». Alors oui, vous devez être content de ça, ça c'est sûr, mais ça doit être au service de quelque chose qui a de l'impact. Parce qu'on parlait de bilan positif, donc avoir un bilan positif, c'est ne pas chercher comme objectif de réussite quelque chose qui est un moyen, d'aller sur quelque chose qui est une fin.
Bah, surtout que ça se passe en entreprise et qu'une entreprise n'est pas une ONG et que l'entreprise, elle cherche une rentabilité de ses euros investis.
Alors oui. Et donc la deuxième chose que nous, on apporte quand on travaille avec les partenaires RSE, etc., ou RH, c'est de dire la première chose, c'est qu'on veut réellement, on s'engage là-dedans parce qu'on veut changer le monde, quelque part, hein, en plus de travailler, de rendre pour l'entreprise. Et donc ça, c'est la première chose importante et c'est pour ça qu'on ne met pas juste la satisfaction ou le taux d'engagement dans les objectifs qu'on cherche à exprimer. Et la deuxième, c'est de se dire, souvent, on les pense un peu climat. Et en fait, il y a souvent une manière de les penser qui est à la fois le bénéfice pour la planète, pour le climat, pour les causes qui tiennent, et pour l'entreprise. Oui. Et donc, on cherche à avoir des formulations d'objectifs. Je pense qu'on a une diapo après qui en parle, où on se dit un bon objectif, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous place aussi comme un partenaire business de l'entreprise dans laquelle on est. C'est à la fois... Alors, tous les objectifs ne sont pas du win-win, mais il y a d'abord un très grand nombre de chantiers qu'on est capable de présenter d'une manière à ce qu'ils apportent à la fois pour le climat et pour l'entreprise. Et donc ça, sur ces trois niveaux qu'on avait mis, si on parle par exemple du changement d'attitude, ou de l'acceptation des nouvelles règles, enfin de l'avoir des plus de voitures électriques dans le parc, c'est quelque chose qui est intéressant, d'une part parce que c'est une première chose qu'on peut faire pour baisser le CO2, mais aussi ça tient compte des engagements de l'entreprise. Et donc, du coup, on a un cas win-win. Sur les comportements, alors je reprends encore un coup la mobilité parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien. Par exemple, l'éco-conduite. L'éco-conduite, quand on la présente, on peut la présenter sous l'axe climat, mais c'est en fait aussi une baisse de la conso de carburant et une baisse de la sinistralité. Et donc on peut se dire que l'objectif, c'est d'aller jusque-là. Et du coup, on a un objectif qui est assez business.
On observe la même chose en digitalisation sur quand on va faire d'un site en sobriété numérique, donc un site éco-conçu, on va avoir un site qui est plus léger en octets, donc il sera mieux référencé sur Google, et il prendra moins de place sur un hébergeur, donc il coûtera moins cher à héberger. Donc on a aussi la réalité économique et de visibilité qui rentre dans des cercles vertueux, comme pour l'éco-conduite, l'exemple que tu viens de donner.
Et donc, du coup, à partir du moment où on s'est donné un objectif qui est un peu plus mesurable, alors qui est plus facile, du coup, à aussi vendre à nos partenaires et à obtenir un financement pour, hein, aussi, puisqu'on est rentré dans un... À la fois, on ne perd pas notre boussole et on rentre comme un acteur à côté, enfin, un partenaire dans l'entreprise. On va pouvoir, d'une part, orienter un petit... choisir différentes actions, parce que si on est sur juste de la sensibilisation, on peut imaginer des actions plutôt courtes, avec de l'émotion, puisque on sait que pour faire changer l'attitude, c'est plus au cœur qu'il faut parler qu'à la tête, il faut les deux, et on va jouer sur les valeurs, on va jouer sur ces choses-là. Si on est dans du transformation de comportement, on est sur du savoir-faire, on est sur autre chose, et donc si on veut une transformation de comportement, ce n'est pas en une demi-heure de vidéo que vous transformez un comportement. C'est quelque chose de plus long terme. Et donc, on va aussi, en ces temps, donner des objectifs réalistes, qui sont ceux qu'on veut, pouvoir argumenter pour avoir les moyens en face qu'il faut. Alors là, on a envie de passer aux moyens déjà. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a encore un petit deuxième moment d'arrêt. C'est de se dire, avant de passer... Donc, j'ai bien défini mon objectif. En plus, il est business, donc je vais... pouvoir argumenter, etc. Maintenant, la deuxième pause, c'est les obstacles.
Pourquoi ils ne le font pas déjà, en fait ?
Et donc ça, dans le monde de la formation, c'est un mouvement qui s'est passé, dans le monde de l'ingénierie PEDA, aux États-Unis d'abord, et puis qui a en France, de dire on ne doit pas être juste des pourvoyeurs de formation, on doit être des pourvoyeurs de solutions. Et la solution, c'est la solution à un problème. Et donc, on part tout le temps, notre point de départ, c'est de se dire quelle serait la situation qu'on veut après, donc l'objectif, et pourquoi on n'y est pas aujourd'hui. Parce que, autrement, on ne mettrait pas en place une action, si c'était facile. Et on identifie, en tout cas, les méthodos identifient en général 5 obstacles à la transformation. Donc, du coup, on est en formation beaucoup sur transformation des comportements. Et je vais les illustrer sur le cas d'un programme qu'on a fait l'an dernier autour de la sobriété énergétique et du fait de pouvoir télétravailler ou travailler avec des chauffages un peu plus bas. Du coup, dans les obstacles, alors je vais les faire peut-être pas forcément dans l'ordre, moi j'ai l'habitude de commencer par le savoir. Parce que dans le monde de la formation, souvent on dit c'est un problème de connaissance. Sauf que vous voyez, il y a tous les autres, donc c'est pas que ça. Mais dans le problème de connaissance... Une des croyances qui fait obstacle, c'est de penser que le seul moyen de se réchauffer ou d'avoir chaud, ce qui crée notre confort thermique, c'est la température de l'air. Et que du coup, on ne va pas pouvoir avoir... C'est quelque chose qui dit, non, mais je ne peux pas, c'est impossible. Et en fait, d'un point de vue connaissance, on peut expliquer ce qui se passe d'un point de vue thermique et montrer que c'est effectivement un gros facteur, mais pas le seul. On a des problèmes de savoir-faire. Et l'une des raisons, c'est que si on ne chauffe pas l'air, il faut chauffer les personnes ou bien éviter les pertes. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Et surtout, d'un point de vue de quand on met en place une baisse de température, si vous faites moins 3 degrés du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça la bonne manière d'aller progressivement, de pouvoir aller vers une baisse de la température efficace pour comprendre quelle est la solution à mettre en place pour ne pas souffrir et pour être même dans du confort, en fait. Ensuite, la motivation. La motivation, c'est souvent la question de pourquoi moi, je devrais faire ça, en fait. Enfin, est-ce que c'est réellement intéressant et important de le faire? Et l'une des manières d'y répondre, par exemple, sur ce sujet, ça a été de rentrer par le télétravail et par le co-bénéfice qui est financier de baisser la température chez soi. Où là, on a un intérêt pour le salarié d'essayer. Le problème d'environnement, au travail, s'habiller différemment de la norme, c'est quand même compliqué. Et c'est quelque chose qu'il faut pas... Enfin, on a une pression à ne pas avoir un pull moche, à ne pas emmener une bouillotte et à avoir des tenues avec un beau décolleté. Et donc, du coup, ça, ce sont des obstacles d'environnement. Et enfin, le dernier, c'est une histoire d'habitude. Moi, j'ai l'habitude d'être en t-shirt chez moi. C'est une habitude. Et donc, du coup, les habitudes, ça ne se change pas de la même manière que... Enfin, il y a quelque chose à prendre en compte en plus. Et du coup, ces différents obstacles, on fait à chaque fois une analyse par rapport à l'objectif qu'on a donné et qui vont nous dire qu'est-ce qu'on met en œuvre. Si c'est un problème de savoir et croyance ou de savoir-faire, la réponse est une réponse de formation. Si c'est un problème de motivation, probablement c'est plutôt une action de sensibilisation en termes d'attitude. Si c'est un problème d'habitude, l'habitude c'est quelque chose avec du temps long et quelque chose où il faut de l'accompagnement. Si c'est un problème d'environnement, c'est quelque chose qu'il va falloir régler en équipe ou différemment. Et donc, en tout cas, la méthodologie qu'on pense utile pour avoir des actions de sensibilisation efficaces, c'est 1, l'objectif, 2, bien analyser les obstacles et le besoin. Et peut-être pour compléter, Shirley, vous avez aussi, vous, la question du besoin, vous l'adressez peut-être un petit peu aussi différemment en digitalisation.
Oui, en fait, le besoin en digitalisation vient souvent d'un cahier des charges et d'une étude. Et au centre de départ, se poser la question de quoi j'ai vraiment besoin. C'est des UX et des ergonomes qui vont répondre à ça. Et vraiment, un gros problème qu'on retrouve tout le temps en digitalisation, quand on choisit de changer, par exemple, un logiciel pour toute une équipe, on rejoint exactement ce que vous dites, les habitudes. En général, vous voyez quand Facebook ou n'importe quelle plateforme que vous utilisez tous les jours change d'interface, vous ne voulez plus l'utiliser, vous trouvez ça nul, alors que ça a souvent été utilisé, pensé et construit avec des ergonomes, pour que ce soit plus facile à utiliser, justement. Mais la réalité, c'est que vous avez vos habitudes et que votre cerveau va toujours aller au chemin le plus rapide et le moins énergivore. Donc, dans les métiers de la digitalisation, le métier d'ergonome ou UX designer, donc user experience, est vraiment au centre de ça pour assurer la lisibilité, assurer l'utilisabilité des interfaces. Et c'est un nouveau métier qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça dans la digitalisation pour vraiment accompagner les utilisateurs. Et donc, pour revenir sur le besoin, ce métier-là du UX va être au départ déterminer l'arborescence de votre site, déterminer le parcours de vos utilisateurs, ce qu'on appelle des user stories. On va faire raconter l'histoire de votre utilisateur pour être sûr qu'il ne rencontre pas d'obstacles, pour être sûr qu'on réponde à son besoin. C'est ce métier-là qui nous va aider, comme dans la formation, l'ingénieur pédagogique.
Oui, l'ingénieur pédagogique, aujourd'hui, on parle beaucoup de learning experience designer, parce qu'on parle d'expérience. Et je pense que ce dont on est convaincu, c'est que la RSE, c'est aussi ça. Et vous le savez déjà, c'est de la conduite du changement, en fait. Et donc, c'est quelque chose de plus large. Peut-être maintenant de se dire, une fois qu'on a l'objectif, les obstacles, les moyens, maintenant, ça y est, on reboucle sur les solutions. Du coup, on a décidé de vous parler de au moins deux exemples issus de notre expérience. Je vais reprendre le modèle objectif, obstacle, moyen. Donc le premier, c'était l'idée et toute la chose, les actions autour de l'éco-conduite. Donc l'idée est de développer l'éco-conduite dans des entreprises qui ont des flottes de véhicules avec deux objectifs. 1, réduire la consommation de carburant, et 2, la sinistralité d'une flotte de véhicules. Et puis pour nous, c'est la première action qu'on peut faire pour réduire l'impact de la mobilité, même si c'est évidemment hyper limité par rapport à tout ce qu'on pourrait faire, mais c'en est un premier petit pas. Les obstacles, on en identifie plusieurs, mais il y en a deux majeurs. Le premier, c'est qu'on pense tout savoir. On pense savoir éco-conduire. On pense savoir conduire. Et on pense même tous conduire un peu mieux que la moyenne. Je crois qu'on est 90% à penser qu'on conduit mieux que la moyenne. Et ouais, c'est pas quand on regarde les autres, mais nous, on pense ça. Et la deuxième chose, c'est pas très motivant. Parce qu'on a un imaginaire associé autour de l'éco-conduite qui est vraiment d'un truc... pas fun du tout.
Qui va limiter ta liberté, surtout.
Qui limite ta liberté. Enfin, c'est quelque chose de perçu négativement. Donc, on avait un gros obstacle autour de ça. Et pas de temps pour ça. Du coup, les moyens, ce qu'on a construit avec les équipes, c'est à la fois une formation en ligne pour gagner cet espace de « on peut le faire à n'importe quel moment ». Et pour les aspects de motivation, on a le fait d'avoir un test. Et donc, du coup, les collaborateurs ne sont pas obligés de tout suivre. Ils peuvent se tester d'abord, voir, puisqu'ils savent. On leur propose de se tester pour aller et sauter des parties. Et ensuite, du coup, de se rendre compte de ce qu'ils en fait, savent pas, avec des questions très pratiques du genre « Vous roulez à 70 km/h, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir, vous avez trop chaud, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir la fenêtre ou allumer la clim pour éco-conduire à ce moment-là, pour consommer le moins de carburant ?» Donc, des questions très pratico-pratiques qui permettent de se rendre compte « Ah, ben, je ne sais pas tout ». Ensuite, on a la formation et à la fin, il y a un challenge qui permet d'ajouter l'aspect ludique et de motivation. Et ça, c'est quelque chose, c'est une des raisons pour laquelle on est là toutes les trois, c'est parce qu'on la partie technologique a été développée par l'équipe de Shirley.
Oui, en fait, l'enjeu sur la digitalisation d'une formation, c'est que ce soit clair, que ce soit fun et éco-conçu. Donc, vous avez quand même eu le courage de ne pas introduire de vidéos dans vos contenus. Aujourd'hui, en formation, c'est un petit peu assez rare de voir ça. Et en même temps, ça vous permet de faire de liens avec des compléments en présentiel aussi. Nous, on a voulu se rapprocher d'une plateforme que vous connaissez qui s'appelle Netflix, où on est sur une interface très immersive, une interface ludique. On a utilisé ici des illustrations en 3D parce que si c'est pas fun, les salariés ou les utilisateurs ne vont pas avoir envie de creuser, de découvrir le contenu. Donc, un élément important de la digitalisation, c'est ce qu'on va appeler la gamification. On va essayer de trouver dans des petits détails ou dans des parcours défis, challenge, voilà, de rendre ça sexy, de rendre ça fun, parce que derrière, on parle quand même d'un sujet qui est assez anxiogène et qui est le climat, et qu'en plus, quand on veut utiliser des leviers de motivation, par exemple dans les leviers de motivation extrinsèques, on sait que quand on va faire un challenge en équipe, on sera plus motivé à faire gagner son équipe que si c'est juste pour soi-même. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais la gamification, c'est un levier de succès dans la digitalisation, pour la formation, mais aussi dans d'autres cas, pour passer une information en tout cas.
On a un autre exemple. Donc un autre exemple, du coup, c'est avec notre client qui voulait travailler sur la question de la température dans les bureaux. Et
ils avaient baissé la température.
Ça s'est très mal passé.
Ça s'est très mal passé. Ils ont remonté, donc ils sont passés à 19. Ils sont repassés à 25. Et ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous?
Et donc là, du coup, l'objectif... on a un objectif de pouvoir diminuer les températures, c'était vraiment l'enjeu l'année dernière dans les entreprises de baisser la température dans les bureaux, mais avec un enjeu d'acceptabilité qui était très fort. Et donc, du point de vue de l'entreprise, il y a un intérêt de se conformer à ce qui est attendu, un intérêt de baisser ses factures, mais aussi ce que nous on a perçu, c'est que dans cette entreprise-là et dans un très grand nombre d'entreprises, il y a du télétravail. Et quand on est en télétravail, c'est le salarié qui paye la facture d'énergie chez lui. Et que du coup, si l'entreprise est capable de l'aider à travailler confortablement en baissant la température chez lui, la personne va pouvoir avoir un effet pouvoir d'achat. Il y a un effet pouvoir d'achat. Donc on avait ces objectifs-là. Et pour nous, c'était aussi intéressant parce que dans l'objectif qu'on vous a donné tout à l'heure, on a dit « bah ouais, il faut que ce soit un objectif business ». Mais en fait, nous, on va plus loin que ça. Et on se dit, pour un très grand nombre des changements de comportement qu'on veut adopter, il y a en fait aussi un bénéfice individuel pour la personne. C'est-à-dire que chercher le win-win-win, le truc qui fait que de la manière où on va le présenter, il y a aussi un bénéfice. Donc les obstacles, j'en avais parlé tout à l'heure parce que je les avais tous pris sur cet exemple-là. Et la solution, ce qu'on a proposé, c'était une intervention en présentiel parce qu'on voulait avoir de l'humain. On voulait avoir quelque chose qui soit interactif. On est venu avec... Alors moi, j'ai un passé de physicienne, donc je suis venue avec, on est venu avec la caméra thermique. On est venu avec des expériences où on touche, on manipule. On se rend compte que c'est un sujet sur lequel on avait des a priori et qu'on ne connaissait pas si bien. Donc on s'ouvre à pouvoir le voir différemment. Et on avait aussi mis en place pendant la session sur les connaissances un peu de gamification avec un quiz, on classe les gens, blablabla, avec des équipes. Et donc ça, c'est une autre... On était sur l'enjeu pas complètement du savoir-faire, mais déjà de se dire peut-être que l'année prochaine, on pourra rouvrir le sujet.
Typiquement, là, vous voyez une des personnes qui avait mis une main dans une eau chaude, une main dans une eau froide. Ensuite, on lui met les mains dans une eau à la même température et il s'aperçoit que ses mains ne lui disent pas la même chose. Ils lui disent « Ah, l'eau est froide, ah, l'eau est chaude », alors qu'il les a finis par les mettre dans le même bac. Donc, il s'est rendu compte qu'il n'est pas un bon thermomètre. Enfin, il n'est pas capable de savoir si c'est froid ou si c'est chaud, puisque ses mains... lui disent des choses contradictoires. Donc en fait, c'était pour aller déconstruire et effectivement réouvrir le débat et de manière très ludique, hein, parce que c'est un peu des... C'est pas sorcier, enfin, c'est main à la pâte, c'est extrêmement ludique. Mais ça permet de redéconstruire, de jouer ensemble. En plus, c'est une forme de team building, donc en plus, il y avait cette notion qui était déconstruite chez eux, puisqu'ils étaient assez fâchés d'être à 19 degrés, donc ça s'était pas très bien passé. De reconstruire aussi le collectif autour de ça.
Donc voilà pour les deux exemples qu'on voulait partager avec vous. Peut-être, du coup, avant de passer un peu à discuter avec vous, Valérie, je te laisse...
Ouais, en conclusion, en fait, ce qu'on voulait vous partager de ces différentes expériences et dans la digitalisation et dans la formation, c'est que les actions de sensibilisation, aujourd'hui, on est un peu... Enfin, la RSE est un peu au début de quelque chose, donc on est le troisième grand mouvement après la formation, la digitalisation dans les entreprises, donc c'est en train de se tester, sensibilisation, mais beaucoup de choses derrière. En gros, ce qu'on se dit, nous, c'est que les actions de sensibilisation visent évidemment un passage à l'action, soit direct, je change ma façon de conduire, je baisse mes émissions de CO2, soit indirect, j'accepte des changements que l'entreprise va me donner ou j'accepte des changements que l'État va m'apporter. Je vais peut-être être force de proposition sur de nouvelles offres ou peut-être dire est-ce que c'est bien naturel de faire le séminaire à Marrakech alors que, bon, on est tous en France, par exemple. En fait, si on veut pouvoir passer de l'entreprise responsable à une entreprise régénérative, ce que je crois est un peu l'ambition de tout le monde, même si c'est pas forcément super simple, et donc ça veut dire changer de business model, il va falloir réfléchir de manière très intelligente ces actions de sensibilisation, pas partir trop dans tous les sens. Ça veut dire quoi ? Réfléchir au bon objectif, on en a vu plusieurs, un objectif qui soit win-win-win, réfléchir aux obstacles, pourquoi les gens ne le font pas déjà ? On a souvent tendance à penser qu'ils ne le font pas déjà parce qu'ils ne savent pas. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas prendre nos collaborateurs ou nos équipes pour des idiots. Il y a quand même beaucoup de gens assez informés. S'ils ne changent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il faut aller chercher ces obstacles et il faut sans doute les aider. Et des fois, c'est juste la culture de l'entreprise qui est à changer.
Juste.
Et quels sont les bons outils ? Est-ce que c'est du présentiel, du distanciel, un combo ? Et comment bien les amener pour justement aller chercher cette sensibilisation, les objectifs qu'on aura mis ? Et c'est aussi, si on a défini des objectifs, c'est vachement plus simple à la fois de mesurer derrière si ça a bien marché ou pas, d'aller le vendre à son patron, d'avoir un vrai budget, voire de le faire à plusieurs et de le vendre peut-être à d'autres entreprises, de le vendre à ses clients. En fait, c'est une vraie démarche marketing. Il n'y a vraiment pas de... Voilà. Donc c'était pour vous partager en tout cas ces réflexions qu'on mène chez nous et qu'on trouvait hyper intéressant parce que en voyant en fait les différentes vagues et en travaillant ensemble, on se dit en fait on a beaucoup à apprendre de la formation et de la digitalisation. En tout cas, on est à votre disposition pour répondre aux questions.
Et si vous voulez aussi passer sur le stand, on est au stand 81, on partage un stand ensemble si vous voulez rentrer, creuser un petit peu plus. Voilà. À l'écoute des questions.
Alors, moi, j'ai une question sur la manière dont vous fonctionnez. Parce que, du coup, quand
Du train de traîneur.
Oui, absolument. Et on n'a pas du tout intérêt à développer notre bilan carbone en allant à Tokyo. Et on a développé des formations Train the Trainer sur plein de sujets. On travaille par exemple avec le Crédit Agricole qui voulait sensibiliser leurs clients. Et on leur a dit ça ne sert à rien que ce soit nous qui le fassions. Vaut mieux que ce soit vos équipes qui le fassent. Donc on va former vos équipes pour qu'ils utilisent nos outils pour aller vers les clients. Donc on a défini des outils, on forme leurs équipes à prendre la parole, à répondre aux clients, enfin à se sentir à l'aise aussi avec le sujet, parce que c'est pas toujours simple, hein, quand on se sent pas expert, on se sent souvent un peu à côté, on n'a pas du tout envie de prendre le risque. Donc voilà. Donc, ouais, mais notre objectif à nous, c'est un objectif d'impact. On est entreprise à mission. Donc nous, notre KPI, entre guillemets, c'est le nombre de personnes formées ou sensibilisées et le nombre d'actions. Donc dans ça, on réussit. Et de toute façon, on n'y arrivera jamais. Enfin, on est 16, donc aller à Tokyo. Et il y a tellement d'actions de sensibilisation. En fait, par contre, nous, on essaye de prendre des sujets par sujet. Oui, on fait des formations au climat. Mais en fait, faire une sensibilisation au climat, c'est pas un objectif. On cherche pas à faire en sorte que vos collaborateurs soient des glaciologues, enfin qu'ils sachent dire la dernière date de la dernière glaciation. Finalement, ça va pas vous servir à grand chose. Vous avez besoin, vous, dans les entreprises, qu'ils changent quelque chose, qu'ils fassent bouger quelque chose. Mais comprendre quoi ? En fait, à nouveau, on le fait, hein, par exemple avec Crédit Agricole, mais à chaque fois avec un objectif de qu'est-ce qu'on veut qu'ils comprennent derrière, parce que quelle est l'action qu'on aimerait qu'ils mettent en place derrière. Et c'est vrai qu'on essaye plutôt d'être très orienté, plutôt que faire des grandes actions énormes de sensibilisation, d'être hyper orienté pour pouvoir montrer, parce qu'en fait, on a tous aussi besoin de montrer des choses qui avancent, des KPI qui progressent, parce que ça va donner envie à d'autres de passer à l'action d'après, et à l'action d'après. Donc, c'est pour ça qu'on... Oui, c'est important, et franchement, la fresque, c'est un super média, c'est génial, mais c'est un peu large. On ne sait pas forcément trop bien quoi en faire après. Il n'y a pas de... moins, en tout cas. Ouais.
En tout cas, c'est une partie difficile. Je veux dire, si la fresque suffisait à vraiment changer les comportements, ça a bien marché. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, on a une chance géniale avec... Enfin, ça a touché énormément, et il faut continuer, et c'est très bien. Et du coup, par contre... ce qu'on a aussi, alors, en ne mettant pas la connaissance dans notre triangle, on est dans l'idée que les actions un peu classiques, on va avoir deux tiers sur le problème, un tiers sur les solutions, un peu en poids qu'on met. Et donc de dire, on va essayer de faire, nous, un tiers le problème, voire un petit peu moins, pour avoir l'aspect motivation et deux tiers solution. On ne dit pas qu'on a la solution, mais de partir chaque action, qu'elle aille vers un bout de solution. Et que du coup, mais ça ne veut pas dire que ça marche parfaitement. Enfin voilà, c'est pas simple.
Bien sûr, c'est un élément.
Alors, c'est peut-être un prérequis, mais c'est peut-être pas si simple que ça, parce que d'une part, il y a des études qui montrent que ça convertit pas si bien que ça, et d'autre part, c'est la raison pour laquelle ce qu'on propose, c'est de dire, et c'est ce que je parlais dans l'objectif win-win-win, c'est dire de chercher un objectif qui est bon pour le climat, mais pas forcément de le présenter sur ses bénéfices climat. Et du coup, en fait, on peut avoir pour un grand nombre de personnes du passage à l'action pour des valeurs qui sont plus chères à leurs yeux à ce moment-là et qui vont permettre...
Oui,
et voilà, et c'est tant mieux. Et en fait, en disant, ben, si vous venez en vélo, c'est bon pour votre cardio, pour votre santé, vous allez... le temps de trajet est fiable. Et puis, by the way, c'est cool pour le climat. Donc on a cet axe aussi. Qui est important dans l'identification avec le client des obstacles, quand on fait surtout quand dans les cas où on fait du sur-mesure, c'est de leur permettre de voir que de toute manière, ils ne pourront pas attendre de nous l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui relèvent d'autres actions qu'on n'apportera pas. Donc ça, c'est la première chose. La question de la motivation, la question de la connaissance est souvent un peu, à notre point de vue, surdimensionnée, Par contre, on travaille sur identifier des croyances obstacles. En fait, plutôt de dire « ils ne savent pas », on va aller amener sur « c'est quoi la croyance qui fait obstacle ?» Et en disant, parce qu'on a souvent un modèle de la personne, elle ne sait pas, non, en fait, elle sait, mais autre chose. Et puis, la motivation, en fait,
peut-être pour donner un exemple très concret, le savoir, enfin, pour passer à 19 degrés, ce n'est pas qu'ils ne savent pas qu'il faut passer à 19 degrés, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent être bien à 19 degrés. Et c'est cette croyance-là, c'est la croyance de « je vais avoir froid et je ne vais pas réussir à travailler parce que je vais avoir les mains gelées et que je vais être derrière mon ordinateur et ils ne comprennent pas au siège que moi, quand je suis assis et que je ne bouge pas, je vais avoir froid ». Cette croyance obstacle, elle rend impossible aucune formation. En fait, ils ne veulent même pas y rentrer, ils ne veulent même pas entendre. Vous pouvez faire tous les leaflets que vous voulez sur « c'est important de réduire la consommation pour le climat ». Ils ne vont même pas l'écouter parce que ça va, pour d'autres métiers qui bougent, ok, mais pas pour moi. Et ça, c'est une croyance obstacle.
Ouais. Et la motivation, ce qu'on voit vraiment de systématique, c'est que nous, on vient du climat. Donc, c'est vraiment ce que je disais il y a 2 minutes là. On vient du climat, donc on a envie de tout vendre pour le climat. On a envie. Et ce travail de awareness, de faire monter l'importance de la valeur climat dans nos décisions, de dire que dans un premier temps, je suis plutôt contre. Enfin, si je prends un parcours, on peut avoir quelqu'un qui est non sensibilisé, juste. Rien, peut-être même contre. Ensuite, on a quelqu'un qui se dit « Ouais, quand on en parle, pourquoi pas ? C'est un sujet... je sais que ça existe, mais moi, ça ne me concerne pas. » Ah, tiens, je trouve ça intéressant quand il y a des conversations sur le sujet, je ne suis pas contre en entendre parler, etc. Ah, je suis proactif, je vais ouvrir. Des fois, je vais aller chercher sur mon site internet, s'il vaut mieux des canettes ou des bouteilles en verre. Ah, et du coup, ça va intervenir dans certaines de mes décisions, mais en concurrence avec la valeur économique, avec la valeur santé, avec d'autres valeurs. Et puis, c'est ma valeur première. Donc, ce trajet-là, c'est super long de monter cette pyramide d'engagement. Et donc, dans la motivation, pour nous, c'est important en tout cas de faire comprendre certaines choses. Et c'est un projet de long terme. Et en court terme, il faut aller par d'autres biais de motivation, d'autres leviers de motivation. Parce qu'il y a 10% de la population où la valeur climat sera suffisante pour motiver un changement de comportement, mais pour le 90% restant, ça ne suffira pas.
Et après, pour répondre d'une autre manière sur votre question, ça dépend aussi des sujets qu'on adresse. Il y a des sujets où ça va être vraiment l'environnement qui va être contraignant. Venir avec votre plaid au bureau, pour revenir encore sur la sobriété, je ne sais pas. Alors moi, je viens avec ma bouillotte au bureau.
Oui, mais on est 10.
Et je suis la patronne. Donc, c'est plus facile. Donc, l'environnement, si vous n'avez pas cette bouillotte ou si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un plaid ou si vous n'avez pas la possibilité d'être chaudement vêtu à 19 degrés, oui, au bout d'un moment, le 19 degrés, il est vraiment dur. Donc, l'environnement peut être un vrai frein. Sur d'autres sujets comme l'éco-conduite aussi, l'environnement peut être aussi un peu frein. Parce que moi, dans certaines boîtes, si le patron arrive en cressant des pneus, en disant « moi, j'ai fait le trajet à 150 km/h et franchement, j'ai explosé. »
Il ne dit pas qu'il a fait à 150, il dit « j'ai mis 45 minutes ».
Ouais, voilà. Et forcément, c'est vachement difficile après pour les autres de se dire « on éco-conduit ». Enfin, il y a une dissonance cognitive avec l'environnement. Mais après, donc en fonction des sujets et des cultures d'entreprise, et ça, c'est vraiment la culture d'entreprise, parce que dans d'autres entreprises, à l'inverse, c'est un super enabler. Le patron est tellement convaincu que lui-même fait des vidéos, explique pourquoi. Et donc, en fait, on peut même s'appuyer sur ça pour aller chercher les savoir-faire, Donc, en fait, c'est très c'est difficile d'avoir une généralité parce que ça dépend de la culture de l'entreprise, des personnes qu'on a en face et du sujet qu'on aborde. Je ne sais pas si c'est une réponse de... Est-ce que vous avez d'autres questions ?
On en prend d'autres, mais il est 20, donc si vous voulez discrètement vous en aller, on ne vous en voudra pas, mais nous, on est ravis de continuer à discuter avec vous.
Vous avez compris, c'est un sujet qui nous passionne. Écoutez, on vous lâche. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Et on est dispo sur le stand à 81, donc si ça vous intéresse de continuer les conversations.